introduire ce partage biblique par une première lecture que l'on trouve dans la première épître de Jean au chapitre 3 et dès le premier verset. On va lire du reste les deux premiers versets. 1 Jean chapitre 3 et le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. On va lire aussi dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, un texte bien connu. Éphésiens, chapitre 4, et à partir du verset 11, et Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Et pour terminer ces lectures introductives, Galates 4, et dès le premier verset, l'Épître aux Galates, chapitre 4, et le verset 1, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Lorsque nous mettons bout à bout ces trois lectures, il y a une pensée, un enseignement essentiel qui ressort concernant, en fait, la croissance du croyant. La croissance du croyant. l'apôtre Paul va parler aux Éphésiens en citant deux stades dans lesquels le chrétien peut se trouver. Le stade d'enfant, enfant flottant, ou le stade d'homme fait et à la ressemblance de Jésus. L'apôtre Jean, lui, on l'a lu, encourage les chrétiens à bénir le Seigneur, à se réjouir, et il conforte cette réalité indéracinable. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Le même apôtre, dans la suite de ses enseignements, en s'adressant aux croyants, va s'adresser à trois publics. Il va s'adresser aux petits-enfants, il va s'adresser aux jeunes gens, et il va s'adresser aux pères. Et là, il n'est pas question de tranche d'âge. Je ne suis pas en train de parler de l'école du dimanche, les poussins, les petits, les juniors, les ados. Ce n'est pas une question d'âge. On n'est pas dans un découpage générationnel. On est dans des stades de croissance et de maturité au plan spirituel. Et dans toutes les églises, il y a ces trois catégories. Et elles se respectent chacune sans problème, on doit en tenir compte. Il y a ceux qui sont des enfants, et c'est nécessaire de vivre cette saison de l'enfance. Il y a ceux qui sont des jeunes gens au plan spirituel, donc ils sont sortis de l'enfance, mais depuis pas très longtemps. Mais c'est bien, ils ont franchi un cap, mais c'est pas encore suffisant. Il y a le stade de père, avec tout ce que cela comporte de capacité, de maturité, de sagesse, de capacité de gérer, de discerner les choses, de peser le pour et le contre, et de gérer avec bonheur et succès certaines situations. Et je voudrais voir avec vous, frères et sœurs, quelques aspects concernant justement ce fil conducteur, enfant de Dieu en devenir d'homme fait, d'homme adulte et de femme adulte aussi pour les sœurs. On est bien d'accord pour dire que c'est merveilleux d'être enfant de Dieu. Faites-moi quelque chose. C'est merveilleux. Il n'y a pas de plus grand miracle que le jour où cette nouvelle naissance dont parle ma Bible se produit dans ma vie. Naître d'un père et d'une mère physique, c'est quelque chose. Mais naître de Dieu, naître à la vie de Dieu, c'est quelque chose d'inestimable. Et on a besoin vraiment de s'émerveiller de ce que nous sommes enfants de Dieu, ayant dans le ciel un bon et tendre Père céleste qui, d'une manière fidèle et infaillible, sait s'occuper des besoins et de chaque besoin de chacun de ses enfants. Gloire à Dieu. Tu es enfant de Dieu. Amen. Et ceci draine tout un cortège de bénédictions. C'est un programme merveilleux. Être enfant de Dieu, c'est être bénéficiaire de toute la sollicitude, l'attention de Dieu, sa prévention, sa provision, sa protection et bien d'autres grâces encore. Et on bénéficie de cet état et de ce statut d'enfant de Dieu. Alléluia. Et moi qui vous enseigne ces choses que vous connaissez déjà, bien sûr, en même temps, je prie pour moi-même afin que je demeure toujours capable de m'émerveiller de cette grâce, que je puisse toujours dire « Seigneur, c'est extraordinaire. J'étais jadis un enfant de colère, perdu dans mes péchés, est survenu ce miracle de la rencontre avec mon Sauveur. Je suis né de nouveau, alléluia, et voici que je suis ton enfant. Choyé, nourri, chouchouté, eh oui, alléluia. Mais avec Dieu, il n'y a pas des chouchous et les autres, il n'y a que des chouchous. Donc, encouragez-vous, hein. Avec le Seigneur, il y a ce privilège dont je dois jouir pleinement, parce que c'est toujours dommage de ne pas jouir de ce bonheur merveilleux d'être enfant de Dieu. Et lorsque le père du mensonge susurre à tes oreilles quelques-unes de ses faussetés, tu peux lui répondre: je suis enfant de Dieu, alléluia. Tu peux par la foi affirmer, te positionner, confesser de ta bouche ce que tu crois dans ton cœur et ainsi demeurer dans cette position tellement privilégiée d'être enfant de Dieu, alléluia. Dans le ciel, il n'y aura pas d'adhérents, de sympathisants, il n'y aura que des hommes, des femmes nés de nouveau. Amen. Jésus l'a clairement dit cette fameuse nuit à Nicodème. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Et un peu plus loin, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, mais tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Et un peu plus loin, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, je prends une petite parenthèse très courte avant d'aller plus loin. Est-ce que tout le monde ici, ce soir, est né de nouveau? Répondez intérieurement. Si tu n'es qu'un sympathisant, qu'une sympathisante, si ça se limite pour toi à prendre un plaisir d'être en compagnie des chrétiens, si tu apprécies l'atmosphère, la gentillesse, que sais-je encore, mais si tu ne peux pas encore dire « je l'ai rencontré moi-même, je suis né de nouveau, je sais ce que représente l'expérience de la conversion, j'ai réalisé mon péché, mais en même temps son immense amour, j'ai compris que Jésus a aussi versé son précieux sang pour me sauver, et ça je l'ai accepté, je suis né de nouveau. » Si quelqu'un ne peut pas clairement affirmer cela, rassure-toi, c'est possible que tu le vives ce soir. Parce que Dieu est là aussi pour t'amener à vivre cette merveilleuse nouvelle naissance, être enfant de Dieu. Quelle grâce merveilleuse, mais nous comprenons que le stade de l'enfance est forcément provisoire. N'est-ce pas? Je ne vous cache pas que moi j'aurais bien voulu rester enfant, quoi. Ouais, parce que quand j'étais gosse, maman faisait une cuisine orientale à vous ravir. J'étais vraiment chouchouté. En courant, je tombais vite. Ma maman, elle me soignait, elle me couvrait de bises. C'est quand même agréable, n'est-ce pas? C'est agréable de cette saison. On prend soin de nous. On est même la vedette lorsque les amis viennent. On est les stars, quoi. Moi, je me souviens, quand j'avais 3 ans, mes parents me mettaient debout sous la table pour que tout le monde m'admire. Aujourd'hui, ça a changé, hein. Mais bon, c'est une saison, c'est une période, mais elle est provisoire. Elle est provisoire, parce que si à 40 ans, je dis « are, are », il y a quand même un petit problème. Il y a quelque chose, un dysfonctionnement, hein. Ça ne va pas. Alors, la Bible m'enseigne que l'enfant, eh bien, doit devenir adulte. L'apôtre Paul dit très très clairement dans ce fameux passage d'1 Corinthiens 13, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alors il y a le langage de l'enfant, il y a les pensées de l'enfant, il y a les raisonnements, parce que le raisonnement, c'est un ensemble de pensées qui se succèdent. Il y a le raisonnement de l'enfant, et puis il y a un âge où c'est indispensable de quitter, de sortir de ce mode de pensée pour devenir adulte et faire disparaître tout ce qui est de l'enfant. L'apôtre qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux va écrire à ces chrétiens donc de Jérusalem et donc du pays d'Israël. C'était quand même les premiers convertis de l'histoire de l'Église. Et l'apôtre va leur dire ceci: nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous vous rendez compte, ça confirme le fait que ce n'est pas une question d'âge ou d'ancienneté, c'était les premiers convertis. Et l'apôtre dit, mais vous devriez être des maîtres, vous devriez quand même maîtriser quand même beaucoup plus que vous ne le faites actuellement. Vous en êtes venus à avoir besoin, imaginez un quadragénaire avec un biberon. Quand même, ça, là aussi, ça dénote quoi, ça dénote. Eh bien, c'était au plan spirituel le sujet d'étonnement de cet apôtre et il le signifie très clairement aux chrétiens dans l'épître aux Hébreux. Devenir fils. On est enfant un temps, mais on est appelé à devenir fils et donc fille. Pour les sœurs, hein. Donc des personnes qui accèdent à une certaine maturité, à un équilibre, à une certaine stabilité, à une certaine capacité de persévérance, de constance pour eh bien, glorifier le Seigneur. Alors j'aimerais, avant de terminer, répondre à deux questions. Pourquoi faut-il tendre vers l'âge adulte? Et comment réussir à quitter l'enfance et à entrer dans cette dimension de maturité? Alors pourquoi? J'ai juste trois réponses. On peut en donner d'autres, mais je ne veux pas surcharger le message. Premièrement, parce que c'est normal. Parce que c'est le processus normal. Un enfant, ben, il faut qu'il grandisse. Oui ou non? Ouais. Toutes les mamans, elles ont les yeux rivés sur le carnet de santé du nourrisson. Elles font des relevés, des pesées, il y a des courbes. On est attentif à la croissance de l'enfant. Et l'apôtre Paul n'hésite pas à se comparer à une mère nourricière. Et il parle des soins maternels qu'il a pour les croyants. Il a évangélisé, beaucoup ont cru, sont nés de nouveau, ils sont enfants de Dieu, mais le souci de l'apôtre ne cesse et ne s'arrête pas à la conversion, il est en souci maintenant de voir la croissance. Alors voilà, comme dans toutes les familles, on fait habituellement ça, on mesure le petit, on le pèse, je sais pas, on note combien de grammes il a pris, vous savez, dans les la première enfance, hein, le lait premier âge. Nous, chez nous, ça a commencé vers 35 grammes, 40 grammes. Puis après, normalement, bon, et dès que elles en prenaient moins, on était inquiet. Qu'est-ce qui se passe ? On est attentif. On est toujours polarisé et en souci par amour, eh bien, de la bonne évolution, la bonne croissance de l'enfant qui va tendre à atteindre sa stature d'adulte. Écoutez, même de Jésus en tant que fils de l'homme, hein, Jésus donc incarné, il est dit, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Eh bien, nous, on a besoin de grandir aussi. Amen. Pourquoi devenir adulte ? Parce que c'est normal de devenir adulte. Et c'est anormal de rester enfant. Voilà, avec les expressions de l'enfant. Voilà, moi j'en ai trois petits, les trois mousquetaires là chez nous, et puis une petite fille. La petite fille, bon, ça va, elle grandit, elle est gracieuse. Elle nous achète par ses sourires. Mais on se laisse acheter facilement. Hein. Mais les trois, surtout les deux grands, là, alors les deux grands, ils sont boudeurs, ils sont réactifs, impulsifs. D'un coup, d'un seul, ils peuvent prendre une crise de larmes, mais pour une babiole, parce que ce n'est pas le ballon jaune qu'ils ont eu, mais le bleu, des crises de larmes. Bon, alors bon, ça va, ils ont 4 ans, ils ont 6 ans. Mais s'ils font ça à 20 ans, il y a quand même un problème. Vous voyez, il y a des caractéristiques de l'enfance. Bon, ça fait partie de la normalité des choses, voilà. Mais ces choses, il faut les faire disparaître. Il faut arrêter, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, d'avoir des comportements, je te boude parce que, je ne sais pas, ou alors je... Non, il faut que ces choses, alors, nous en soyons débarrassés, je dirais définitivement, pour laisser toute la place à l'adulte. Alléluia. Ça fait partie des choses normales. Pourquoi devenir adulte? Parce que si nous ne devenons pas adultes, Paul l'explique aux Galates, nous ne sommes que des héritiers potentiels. Parce que l'enfant, il est héritier, oui, potentiel, mais en fait, en réalité, il est sous tutelle. Il n'entrera dans son héritage véritable que s'il devient adulte. Et le Seigneur a pour nous un héritage, mais d'une diversité, d'une richesse infinie. La Bible nous parle de la richesse de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu nous bénit selon sa richesse. Selon sa richesse. Nous, frères et sœurs, nous sommes héritiers de Dieu. Et dans les trésors infinis qu'il nous lègue, parce que nous sommes héritiers de lui, mais il y a tout ce dont nous avons besoin pour être comblés, sa paix miraculeuse, sa joie malgré toutes les oppositions, sa force dans les moments de surmenage, sa sagesse pour dénouer les problèmes inextricables, et bien d'autres bénédictions encore. Des capacités d'aimer, de pardonner, d'espérer contre toute espérance et bien d'autres bénédictions sont pour nous, mais pour que nous les vivions, ben, il faut nous débarrasser des caractéristiques de l'enfance et entrer au stade de l'homme adulte. Voilà une deuxième raison. Et puis une troisième que je vous livre avant d'aller un peu plus loin sur le comment. Pourquoi devenir adulte ? Parce que le monde a besoin de voir des chrétiens adultes. La Bible nous dit, la création attend. La création attend. Elle attend avec ardeur la révélation des fils de Dieu. Tout à l'heure, je priais pour la situation de notre, j'allais dire, beau pays, mais un beau pays en péril imminent. Eh bien, au milieu de cette société qui est en train mais d'éclater, d'exploser, de s'effondrer, toutes les garanties politiques, économiques, toute la structure de la société, les grands piliers, la santé, l'éducation et bien d'autres domaines encore, tout cela est remis en question d'ailleurs de la bouche même des chroniqueurs, même s'ils ne sont pas chrétiens, on entend parler du chaos. La politique du chaos. Et je comprends ce verset à la lumière de ce que nous sommes en train de vivre. La création, l'humanité, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, autrement dit, de chrétiens matures, qui vont avoir les paroles inspirées, le témoignage convaincant, et qui vont, au milieu de ces gens complètement désorientés et perdus, qui vont pouvoir leur dire la direction. Nous sommes les poteaux indicateurs de la seule source d'espérance, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un nom, qu'un seul, qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés, vous le savez. Mais à la lumière de ce que nous vivons et dans un rythme qui s'accélère, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais moi je trouve que l'évolution s'accélère, l'enchaînement des événements catastrophiques et précurseurs d'une tragédie planétaire s'accélère. Le temps semble se précipiter. Eh bien, au milieu de cette mécanique infernale, Dieu a établi son Église. Des hommes, des femmes qui doivent manifester que leur foi est une foi mature, adulte, sage, irréfutable, convaincante, que le Seigneur soit béni. Voilà trois raisons qui nous encouragent à tendre le plus rapidement possible à accéder au stade de l'homme fait, de la femme faite, d'une foi spirituelle, d'une foi mature, spirituelle et non pas fluctuante et sentimentale. Maintenant, comment? Et ce sera ma conclusion. Comment y arriver? On le sait bien, nos propres efforts ne suffisent pas. Notre bonne volonté, notre discipline scrupuleuse, nos démarches les plus sincères ne suffisent pas. Quelqu'un disait, ce que Dieu ordonne, il le donne. Et quand Dieu ordonne que je devienne adulte, il le donne. Et Dieu a ses moyens et ses méthodes pour nous sortir de l'enfance et nous introduire au stade de l'adulte. Parmi ces méthodes, la première que je vais vous citer, frères et sœurs, c'est le sevrage. Le sevrage. Le roi David disait, « J'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré. » Voilà. L'enfant est passé par un stade transitoire et maintenant que ce sevrage est bien accompli, il est sevré. Le résultat, il a l'âme calme et tranquille. Le sevrage, tout à l'heure je vous parlais de la douceur confortable d'être enfant, parce que tout est facile, tout vient à l'heure, voilà, on nous sert la qualité la meilleure, on est chouchouté, mais ça ne va pas durer. Et il va falloir passer par le sevrage au plan spirituel. Déjà, sur un plan biologique et physiologique, le nourrisson est introduit à ce sevrage, il le vit très mal. On lui enlève des éléments tellement agréables. Il est un peu sale, il émet trois pleurs et vite on le change. Une couche toute neuve. Il a un début de faim, quelques cris, hop, la maman vient et elle lui donne le sein maternel. Le contact chaud avec le sein de maman, du lait qui arrive à température idéale, et ça coule facilement. C'est vrai qu'il peut y avoir, dans la première saison de la marche chrétienne, cette jouissance confortable, agréable, d'être béni par le Seigneur. Et c'est merveilleux. Mais ça ne va pas durer. Il y a le régime de la première, de la petite enfance, et puis il va y avoir un changement de régime. Il va falloir que le nourrisson accepte un nouveau régime, un nouveau fonctionnement. Un changement, parce qu'il n'y aura plus ce contact chaud et doux avec le sein maternel. Le menu qu'on va lui servir va se modifier. Il va y avoir des goûts nouveaux. On introduit des goûts de légumes. On y va progresser. Donc, il va aller de découverte en découverte et chaque découverte va le déranger. Il va falloir qu'il accepte cela. Au plan spirituel, il en est de même. Je pourrais dire que le peuple d'Israël lui-même a dû passer par le sevrage. Au commencement, Dieu le trouve dans la servitude égyptienne. Et là, le régime alimentaire est symbolisé par les herbes amères. Les herbes amères, c'était la nourriture des Israélites en Égypte. D'ailleurs, dans le repas pascal, Dieu a ordonné que l'agneau soit accompagné d'herbes amères. Parce que c'était le souvenir du terrible régime de la servitude égyptienne, et en se remémorant cette dureté de l'esclavage égyptien et de la glorieuse délivrance que Dieu avait opérée, alors la mémoire de ces Juifs était ravivée et leur reconnaissance à Dieu également. Les herbes amères, heureusement dans sa bonté, Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte et de l'autre côté de la mer Rouge, voici le peuple dans le désert. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un changement de régime. Il y a eu la manne. Le matin, au sortir de leur tente, ils se sont aperçus que tout le campement d'Israël était entouré d'une rosée matinale. Et qu'en disparaissant, la rosée laissait paraître sur le sol une gelée blanche avec composée de grains de petits grains. Et quand ils ont goûté, la Bible nous dit qu'elle avait la manne avait un goût de miel. Donc tout ça nous parle mais d'une nourriture mise à disposition par Dieu pour le bien de son peuple d'une manière, je dirais, facile. Le peuple était quasiment passif dans l'approvisionnement de cette manne. Il y avait quand même à sortir chaque matin, et le matin du Shabbat, il y avait un double de portions. Il fallait sortir et il fallait ramasser. Voilà. Donc un homer par tête, 3,5 litres à peu près de manne pour chaque personne. Et on faisait soit cuire, soit bouillir. Et on se nourrissait ainsi de la manne pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Ils n'avaient pas besoin de chasser, de pêcher, de cultiver. La manne était servie chaque matin. Entre parenthèses, il nous est quand même dit que vers le midi, à la chaleur du jour, la manne fondait et elle disparaissait. Donc il fallait aller chercher de bonne heure le matin. Juste pour dire que certainement, le meilleur moment de la journée, le plus important aussi, c'est de venir auprès du Seigneur le matin. Et là, de se nourrir de cette alimentation divine qui va nous donner pour toute la journée les ressources en sagesse, en joie, alléluia, et en capacité de traverser tous les événements de la journée. Mais ça, ce n'est qu'une parenthèse que je vous livre en passant. 40 ans ont passé. C'est maintenant Josué qui est à la tête du peuple. Dès que le Jourdain a été franchi, il y a une troisième étape. La Bible nous dit, la manne, c'est ça. Juste après la célébration de la Pâque, le 14e jour du mois, la manne, c'est ça. Et Dieu dit maintenant, vous vous nourrirez du blé du pays. Et ça, ça a changé de régime. Hein. Parce que pour avoir une moisson, il fallait se retrousser les manches. Il fallait labourer, il fallait semer, il fallait chasser les oiseaux voleurs, il fallait prier pour que des nuées de sauterelles ne viennent pas ravager la moisson qui était en train de se lever, là. Il fallait attendre, il fallait persévérer. Quand la moisson était prête, il fallait moissonner. Il fallait ensuite traiter ce blé, il fallait le moudre, il fallait le travailler. Autrement dit, ça changeait de régime. Je crois, frères et sœurs, que dans l'évolution de la maturité du croyant, il faut accepter les changements de régime. Lorsque Dieu ne m'exauce plus sur le champ, ça n'est pas que sa fidélité a changé, non. C'est simplement qu'il est en train de me sevrer. De me sevrer et de me former pour avoir cette stature de l'adulte, de la maturité spirituelle. C'est ainsi que par le sevrage, eh bien Dieu travaille à notre maturité. Le sevrage. Le deuxième moyen que Dieu utilise, c'est l'éducation. Dieu nous éduque. Vous savez, vous connaissez ce verset qui dit « Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ?» Ce verbe « châtier », il faut bien le comprendre, en fait, c'est éduquer. C'est l'éducation du Seigneur. On est bien d'accord ? Nous sommes à l'école de Dieu. Oui, nous sommes à l'école de Dieu. Nous sommes en apprentissage. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai encore des leçons à acquérir et assimiler. Je veux encore tendre. Je remercie le Seigneur pour tout le chemin parcouru, toutes les leçons que sur le terrain, Dieu m'a donné de traverser et qui ont contribué à une certaine évolution de ma maturité, mais je sais très bien qu'entre l'état où je suis et la dimension du divin modèle qu'est Jésus, il y a encore du chemin à faire. Hein. À moins que vous, ça va, c'est déjà fait. Non. On a des progrès à faire. Qui n'a plus de progrès à faire, qui lève sa main, on se voit demain après-midi pour une visite personnelle. Nous avons besoin encore et encore que Dieu nous éduque, que Dieu nous transforme, que Dieu nous façonne, que le Seigneur nous travaille, qu'il fasse de nous comme ces pierres qui ont été polies dans le lit du torrent, ces pierres qui, toutes jeunes, étaient avec des arêtes et des pointes, eh bien, sous l'effet du courant du torrent, ont été travaillées et polies. Et ce sont ces pierres-là que David a choisies pour terrasser le géant. Seigneur, fais de moi une pierre polie, efficace entre tes mains, pour remporter des victoires sur le terrain, faire valoir la victoire de Christ sur le prince des ténèbres, et que des forteresses d'incrédulité soient mises en terre. Que les résistances, l'orgueil, les oppositions, l'esprit d'apostasie, ces forces qui s'insurgent contre la connaissance de Jésus soient anéanties, et que le Saint-Esprit convainque les cœurs, fasse tomber les carapaces, brise les chaînes, ouvre les prisons, et que des âmes soient sauvées. Donc, le deuxième moyen, c'est l'éducation. Gloire à Dieu. Lorsque tu vois un problème arriver en chemin, n'y vois pas un problème, mais vois-y l'éducation du Seigneur. Amen. Vois là une intention calculée de ton Dieu, de ton divin professeur, de ton divin potier, s'il permet cet événement non souhaité, mais pourtant qui vient sur ton chemin, c'est parce qu'il veut te rendre meilleur. Il veut te dépouiller, te débarrasser de toutes les aspérités, de tous les restes de l'ancien caractère, pour faire de toi, je le répète, une pierre polie et efficace dans sa fronde pour remporter des victoires. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Il y a donc ces moyens divins que Dieu va utiliser pour faire de nous, eh bien, des adultes. Le résultat, j'y vois là aussi un moyen supplémentaire, c'est que, comme le dit Paul aux Romains, chapitre 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le résultat donc, c'est que je permets une mainmise bienveillante du Saint-Esprit sur ma personne. Est-ce qu'on est d'accord pour permettre au Saint-Esprit de nous gouverner? Amen. Plus tu permettras à l'Esprit de Dieu de placer son influence bénie sur ton être psychologique, émotionnel, sur tes pensées, sur les aspects de ton caractère naturel, plus sa mainmise sera établie dans ta vie, et plus tu tendras vers l'âge adulte. Parce que ce ne sont pas les enfants, mais les fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Je disais tout à l'heure que l'ensemble de nos pensées forme un raisonnement. On peut appeler aussi ça une voix, V-O-I-E. Et Dieu dira, vos voix ne sont pas mes voix. Et quand c'est le Saint-Esprit qui met sa main directrice sur ma personne, alors mes voix capitulent au bénéfice des voix de Dieu. Et moi, je préfère les voix de Dieu. Non ? Elles sont parfaites. Alléluia. Elles conduisent toujours à des aboutissements glorieux. Que le Seigneur soit béni. Autre bénédiction que je vous cite comme cela avant de terminer. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Oui ou non? Non. Ils seront appelés fils de Dieu. Fils de Dieu. Ah, quelle bénédiction il y a à atteindre cette stature de maturité qui va nous rendre capables de procurer la paix. Je disais tout à l'heure qu'il y a ces trois catégories, enfants, jeunes gens, pères. Eh bien, les pères vont être capables de communiquer une influence apaisante aux plus jeunes dans la foi. Que le Seigneur nous utilise, frères et sœurs, à être des moyens de paix, des paroles qui rassurent doivent sortir de notre bouche. Dieu peut nous donner une pensée inspirée, quelque chose vraiment de conduit pour procurer la paix. Combien de fois Jésus a dit « Rassurez-vous ». Eh bien, de la part du Seigneur, nous sommes appelés aussi à dire à d'autres, plus jeunes, plus tendres, plus fébriles peut-être, « Rassure-toi, Dieu est sur son trône, il veille sur sa parole, il ne manque jamais dans la détresse ». Des artisans de paix. Je crois que c'est peut-être la chose la plus compliquée, la plus difficile à obtenir et à vivre, la paix véritable, la paix intérieure, la paix en familiale, la paix dans les églises, la paix sociale. Regardez, ils se sont rencontrés finalement pour signer un cessez-le-feu et il n'a pas fallu longtemps pour que le cessez-le-feu, eh bien, soit enfreint. Et donc, il y a eu un tir. Et de l'autre côté, on dit, je vais tirer aussi pour faire respecter le cessez-le-feu. Hein. Donc, ça montre bien que la paix véritable, elle ne peut trouver sa source que dans le prince de la paix. Alléluia. Eh bien, plus je disparaîtrai de ce stade de l'enfant flottant, capricieux, versatile, pour revêtir les qualités de l'homme adulte, de l'homme fait, plus je permettrai au prince de la paix de m'utiliser pour procurer la paix. Alléluia, que le Seigneur vraiment fasse de nous des chrétiens adultes, plus adultes, de plus en plus adultes, gloire à Dieu, jusqu'à ce que le chef-d'œuvre soit parfaitement achevé, et que le témoignage de Dieu puisse maintenant ponctuer par une parole de succès. Mais j'ai bien conscience que je suis encore une œuvre inachevée. Et moi, je veux qu'il la conduise à son parfait achèvement. Amen.